Captain Paul Bear.
Ba-da-ba-ba-dum. Ba-da-ba-ba-dum.
Captain Paul.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Paul Bear 93.9 et merci d'être venu nous rendre visite. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Philippe Poutou, vous avez représenté le NPA aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, les 10e et 11e scrutins de la 5e République. Mais je vous laisse vous présenter.
Ah ben, je suis aussi et peut-être surtout... Oui. Ouvrier dans une usine à Blanquefort, l'usine Ford, qui est malheureusement une des nombreuses usines actuellement en train de fermer ou programmée à la fermeture, même si on ne désespère pas d'empêcher l'issue fatale, puisqu'on a une attaque au tribunal dont on devrait avoir la réponse début juillet. Donc on peut peut-être sauver l'usine et donc par le coup sauver quelques centaines d'emplois, et parmi ceux-là le mien, et ça serait quand même une bonne chose, sachant que ça concerne pas mal d'emplois aussi autour de l'usine dans la région, quoi. Donc voilà, donc bon, après je peux résumer la présentation à ça.
Oui, alors bien sûr nous en reparlerons parce que c'est un sujet brûlant et intéressant. Vous avez été ouvrier, vous avez été éducateur également, éducation nationale.
Non, je n'ai pas.
Non.
non.
Surveillant général, non.
J'ai fait, mais à très longtemps. J'étais sur, j'ai fait un TUC à l'époque, là, les petits boulots pour les jeunes, mal payés et très précaires, où j'étais effectivement surveillant dans un collège. Mais là, ça remonte à. J'étais encore très jeune.
Oui, j'ai un ami qui a été votre collègue, c'est pour ça.
Ah, c'est vous.
Voilà, donc syndicaliste, homme politique. Vous êtes né dans la banlieue parisienne. Est-ce que cela vous a marqué?
Non, je ne pense pas. Là, c'était. En fait, on est une famille bordelaise, mais mon père étant postier. Mmh. Et à l'époque, dès qu'il y avait le concours de la poste, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait obligatoirement une mutation à Paris ou en région parisienne. Et donc, mes parents sont montés en Seine-Saint-Denis à ce moment-là. Et puis, les quatre enfants qu'ils ont eus sont nés dans cette période rapprochée de 67 à 71, 72. Et après, on a pu revenir sur Bordeaux dès que mon père a pu avoir la mutation en Gironde, donc Arcachon, puis la région bordelaise.
Arcachon, voilà, avec une maman, maman au foyer.
Ben oui, elle a bossé, et puis quand je suis né, à l'époque ça se faisait aussi beaucoup, il y a eu quatre enfants, et donc elle a, sa vie ça a été s'occuper de nous, et après quand elle a voulu retrouver un boulot dans les années 80, ben, il y avait déjà pas mal de chômage, elle n'a pas réussi, donc finalement elle est restée ce qu'on appelle une femme au foyer, avec beaucoup de travail non rémunéré.
Voilà, alors avant de reparler de l'affaire Ford, évidemment, et de la suppression des emplois qui sont annoncés, mais ceci est une autre histoire, qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter par deux fois aux élections présidentielles alors que vous ne désirez pas expressément exercer une activité politique ?
Ça, c'est sûr. Enfin, nous, l'activité politique, c'est une activité militante, en fait, comme pas mal de gens aujourd'hui, ou dans les associations, ou dans les syndicats, ou dans des partis politiques. On milite au quotidien, on défend nos convictions, et donc c'est ce que je faisais avec mes camarades. Et la présidentielle, c'est vrai que c'est tout particulier. C'est qu'à un moment donné, il y a un candidat pour un parti, donc le NPA pour nous. Et même si nous, on considère le poste de candidat comme plutôt un poste de porte-parole, quoi. Mais c'est vrai que c'est très particulier, et on n'est pas destiné à faire ça du tout. Bon, alors, il y a eu des circonstances très particulières en 2011, qui fait qu'on avait Olivier Besancenot comme candidat habituel. Il avait fait les deux précédentes présidentielles. Et à juste titre, il n'avait pas envie de faire une troisième, parce que sinon on fait ça à vie après, et puis c'est pas très marrant. Et il fallait un ou une autre camarade. Et puis à ce moment-là, bon, ce qui s'est passé, c'est que 2011, c'était déjà la lutte Ford. Et la particularité de 2011, au moment où il fallait qu'on décide, c'est qu'on avait gagné une première étape du combat, c'est qu'on avait sauvé une première fois l'usine. Et donc, du coup, comme on cherchait plutôt un profil de lutte sociale, et là, pour le coup, qui n'avait pas perdu sa bataille, ben, je devenais un potentiel candidat pour représenter le parti et puis les idées de la lutte qu'on veut faire entendre dans ces élections-là. Et donc, il y a eu une discussion. Au départ, évidemment, j'étais pas du tout partant, mais comme on n'est pas partant dans ces cas-là, et puis finalement, bon, on s'est dit ensemble que c'était peut-être c'était la moins mauvaise solution pour nous. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu candidat en 2012.
Candidat dont il y a une élection du parti.
Oui, bien sûr, c'est une désignation,
au sein du parti.
On décide de, parce qu'il y avait d'autres profils, d'autres camarades qui pouvaient l'être, même si personne ne tenait absolument à être candidat. Et puis voilà, puis il a fallu qu'on choisisse et on a choisi. Et ça passe effectivement par un vote à l'intérieur de l'organisation.
Alors vous ne pouvez pas être désigné deux fois, trois fois. Vous
on peut, mais, fois, ouais, voilà, mais c'est sûr que déjà fois, une fois, moi je pensais qu'une fois c'était déjà très bien parce que c'est quand même bien d'une fois sur l'autre de changer. Et puis la deuxième fois, parce que c'est assez compliqué les présidentielles à cause de la barre qui est très haute d'atteindre les 500 parrainages auprès des élus, notamment auprès des maires et notamment surtout dans les petites communes. Donc c'est quelque chose, une mission qui est très très difficile et de plus en plus difficile parce que la loi devient de plus en plus restrictive. Et donc la deuxième fois, en 2017, personne ne se sentait de lancer un visage inconnu. Et donc on est reparti avec mon nom parce que c'était plus facile. Et les maires des petites communes connaissant déjà mon nom et ma figure. Voilà, donc en fait, on était parti une deuxième fois là-dessus. Et c'est sûr qu'une troisième fois, ça nous apparaît complètement inenvisageable pour les prochaines élections. Soit on trouve une camarade, parce qu'a priori, ça serait une camarade ce coup-ci, soit les conditions politiques sont différentes et enfin, on verra où on en est à ce moment-là, parce qu'on a encore 3 ans devant nous, on n'est pas obligé d'y penser de suite.
Alors le NPA, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, Philippe Poutou, ce que signifie NPA ?
Bah déjà, c'est nouveau parti anticapitaliste, un parti qui est relativement nouveau ou récent puisqu'il date de 2009, même si maintenant, 10 ans après, parce que ça fait 10 ans, on se dit que le nouveau, ça fait un peu bizarre de dire nouveau 10 ans après. Mais voilà, c'est le parti qui a fait suite à la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, d'Alain Krivine notamment, qui était un des camarades les plus connus, qui a été candidat à la présidentielle en 69 et 74, lui aussi. Et donc, c'est un parti, un des partis ou une des organisations politiques à l'extrême gauche qui se dit communiste révolutionnaire. Et puisqu'il y a Lutte ouvrière aussi, qui est l'autre parti qui est assez connu en France avec des idées qui sont assez proches. Et voilà, donc on est devenu nouveau parti anticapitaliste parce qu'en fait, en 2009 et les années un peu avant, on se disait que ce serait bien d'arriver à construire une organisation politique qui regroupe des militants d'extrême gauche, y compris libertaires, pas juste communistes révolutionnaires. Ou pas juste trotskiste. On avait cette ambition-là d'essayer de regrouper, parce qu'on voit qu'on est quand même bien éparpillé. On n'a pas vraiment réussi l'objectif, mais on existe toujours encore aujourd'hui, et en sachant qu'on pense qu'il faut toujours regrouper, et ce serait bien comme André, on arrive à construire un outil politique qui soit entre les mains des militants avec des idées révolutionnaires, et voilà, pour qu'on soit un peu plus fort. Et on voit que la situation politique, elle n'est pas très marrante et pas très favorable actuellement. Enfin, bon, on ne désespère pas, en tout cas, qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans le bon sens.
Voilà, donc NPA, dont vous êtes un des porte-parole, Philippe Poutou. Alors, que représente le logo du NPA de couleur rouge?
Ah, vous parlez des porte-parole, effectivement. Il y a Olivier Besancenot qui reste le porte-parole du parti. Et puis Christine Poupin, en fait, on est trois porte-parole au niveau national, en sachant qu'après, dans les villes, on a des porte-parole locaux, enfin des camarades, mais qui sont évidemment peu connus ou pas connus, puisqu'après, quand on est connu, c'est qu'on est passé par les voies de la médiatisation. Mais ouais, donc le logo du parti, c'est un porte-voix, un mégaphone, donc voilà, qui est un des outils de manifestation, même si aujourd'hui ça se modernise, on a des sonos un peu plus performantes, mais voilà, ça symbolise en fait l'idée de porter une voix, de faire entendre une colère, de faire entendre la voix de ceux qui luttent, voilà, c'est un peu tout ça qui est là-dedans.
Bien sûr, et pour faire entendre sa voix, bien entendu. Alors, une bataille hautement politique, nous allons y venir. Vous avez fait paraître dans le monde diplomatique de ce mois-ci, juin 2019, en kiosque, et que vous retrouverez en ligne, « Chronique d'un combat contre le fatalisme », donc écrit par vos soins. L'usine de Banquefort fabrique des boîtes à vitesse, nouvelle génération, depuis 2012 à peu près. Les rumeurs de fermeture de l'usine Ford de Blanquefort remontent à plus de 10 ans, à 2008. Vous retracez l'historique d'ailleurs de ce combat hautement important. 870 salariés en 2017, 2000 emplois publics et privés induits dans la région, comme vous nous l'avez signalé tout à l'heure. Quels sont vos espoirs que vous portez sur le jugement du tribunal de grande instance qui va tomber au mois de juillet prochain ?
Mais on garde un espoir, même si certains ou beaucoup nous disent qu'on est un peu dingo d'espérer que la justice puisse prendre une position aussi importante en notre faveur. Mais l'espoir, on le garde parce qu'en fait, depuis le début, depuis l'annonce de la fermeture de l'usine il y a un an, hein, c'était en juin, oui. Donc de l'année dernière, mais même on peut remonter, comme vous disiez, enfin, parce que la lutte, ou en tout cas la volonté de fermer l'usine du côté de la multinationale Ford, ça date de 2007-2008. Donc la mobilisation, elle date de ce moment-là. Ça fait une douzaine d'années qu'on essaie de résister contre une logique de fermeture. Et en fait, depuis...
Ça a marché, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Dans un premier temps, en tout cas, on a réussi, par notre mobilisation, par des tas de circonstances, et certainement un peu de chance aussi, on a évité une fermeture dans un premier temps, donc en 2009-2010, hein, cette période-là. Et contrairement à d'autres usines à l'époque, comme Continental, Goodyear, Molex, il n'y a pas 2008, 2009, 2010, dans l'automobile, ou parmi les équipementiers automobiles, il y a eu beaucoup de fermetures d'usines. Et nous, on fait partie de ceux qui ont survécu à cette période-là. Et bon, on a survécu pour pas très longtemps, puisque Ford est repassé à l'attaque l'année dernière. Donc en fait, je dis tout ça parce qu'en fait, depuis le début, on a malheureusement ce qui domine dans la tête des collègues, dans la tête de la population, c'est que quand il y a une volonté de fermer l'usine, en fait, il y a cette idée qu'on ne peut pas l'empêcher. Et donc, c'est beaucoup de résignation, beaucoup de fatalisme parmi les salariés, donc, mais aussi parmi l'entourage, parmi la population, tellement on a vécu des fermetures d'usines, tellement on a connu des combats aussi pour empêcher ça, qui ont échoué. Et donc, du coup, ben, finalement, ce qui se met en place dans la tête de tout le monde, c'est qu'on ne peut rien faire contre ça. Et donc, c'est pour ça que dès le départ d'une annonce comme ça, ou dès qu'il y a un danger, ben, il y a beaucoup de fatalisme. Et nous, dès le départ, on essaie de résister contre ça. On essaie de montrer que ben, tant qu'on n'est pas fermé, tant qu'on n'est pas licencié, ben, il y a toutes les raisons de se battre, de relever la tête. Il n'y a pas que l'idée de la dignité humaine, hein, enfin, de notre dignité à nous, de défendre nos salaires, nos conditions de vie. Mais il y a aussi tout simplement comme un principe, quoi. Il faut qu'on se défende. Et puis, il y a cette idée qu'il n'y a pas de raison, en fait, d'accepter comme ça des trucs qui seraient au-dessus de nous tous, comme quoi, ben, finalement, parce que Ford possède l'usine ou parce que les multinationales sont les plus fortes aujourd'hui, ben, finalement, elles auraient raison, elles feraient ce qu'elles voudraient. Non, on voudrait empêcher ça. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on est dans une étape très cruciale parce qu'on a perdu toute la période de mobilisation cette dernière année. Hein. On n'était pas très nombreux, parce que beaucoup de collègues n'y croyaient pas, mais on a tenté d'empêcher donc, que Ford aille jusqu'au bout. Et là, on a un peu notre dernière cartouche, finalement, c'est cette action en justice où on attaque sur le droit. C'est-à-dire, oui. En fait, s'il n'y a pas de cause économique, normalement, une multinationale, enfin un patron, ne peut pas licencier pour des raisons économiques puisqu'il n'y a pas de cause économique. Donc, on essaie d'attaquer là-dessus et on essaie de faire en sorte que la justice, en nous donnant raison, dise à Ford, voilà, vous n'avez plus le droit de licencier puisqu'il n'y a pas de cause économique à cette fermeture d'usine, en sachant qu'une cause économique, c'est une difficulté financière. Et là, Ford, c'est une multinationale qui fait des milliards de bénéfices. Oui. En plus, c'est une multinationale qui a reçu énormément d'argent public.
Qui a alimenté, oui.
C'est 5 dernières années, on connaît la somme, c'est pas loin de 50 millions d'euros, mais sur 45 ans, en fait, de présence sur le territoire à Blanquefort, la multinationale Ford a presque sans arrêt touché des aides. Et donc, nous, on pense que c'est un argument supplémentaire pour délégitimer le droit de Ford de fermer cette usine-là, puisqu'on pense que cette usine-là, quelque part, elle est un peu publique, et donc, il devrait y avoir le droit pour la collectivité, le droit pour les collectivités territoriales, de pouvoir s'opposer à ça. Et nous, on essaie de représenter ça, finalement, la légitimité du droit à l'emploi, du droit à défendre les intérêts de la collectivité. Donc jusqu'au bout, on s'oppose à ça. Et on a cet espoir, effectivement, qu'on peut gagner, parce qu'en réalité, on a raison. Voilà. Et maintenant, il faudrait espérer que du côté des juges du TGI, il y ait aussi cette conviction-là qu'il y a un moment donné, doit être priorisé l'intérêt collectif, l'intérêt social et le droit, législation française qui permet de dire aujourd'hui, on ne peut pas fermer une usine s'il n'y a pas de cause économique.
Alors, ça peut être repris également par d'autres multinationales ou d'autres entreprises. Je pense à Punch.
Ben oui, on avait un repreneur, effectivement. Alors, il n'y a jamais de reprise miracle dans le sens où chacun des... Là, ce n'est pas une multinationale, Punch, mais c'est une société quand même relativement importante. On sait très bien que dès qu'ils veulent reprendre, c'est pour faire de l'argent, évidemment, parce que la logique aujourd'hui du système économique, du système capitaliste, c'est la logique profonde du système, c'est de faire de l'argent en exploitant le travail des autres. Mais il y avait cette possibilité-là. Il vaut mieux avoir une reprise économique et une continuité d'activité plutôt qu'une fermeture pure et simple et puis tout le monde licencié. Donc, dans la bataille de l'année dernière, il y a eu à un moment donné, effectivement, un candidat syndicat qui s'est positionné pour reprendre l'usine, qui a été défendu par l'État et que nous, on a défendu du coup, parce que pour nous, c'était l'opportunité pour sauver des centaines d'emplois, même si les conditions n'étaient pas toujours au top. Hein, parce que, bon, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait quand même des exigences de la part du repreneur de s'attaquer à nos salaires, à nos RTT. Enfin voilà, c'était quand même pas si simple que ça pour nous. Mais ceci dit, il y avait la possibilité de sauver une usine et donc des centaines, voire même des milliers d'emplois, puisqu'on continue à discuter des emplois induits par l'activité d'une usine. Il se trouve que la multinationale Ford, qui veut absolument fermer cette usine-là, a refusé de discuter avec ce repreneur-là et dès le départ s'est positionné contre. Et il y a eu un bras de fer. L'État, à un moment donné, a tenté de convaincre Ford, mais n'a pas réussi. Et ce qui a été terrible dans cette histoire-là, c'est la démonstration d'impuissance de l'État, notamment du ministre Le Maire qui est intervenu dans l'histoire, qui s'est retrouvé sans moyen de contraindre Ford, alors que tout portait à penser qu'il y avait la possibilité largement de sauver cette usine-là et donc pour Ford de la revendre et d'aider à ce qu'il y ait une reprise. Ça n'a pas été le cas, ce qui est scandaleux en fait. Hein. Mais ce n'est pas le seul scandale aujourd'hui. Hein. On voit aujourd'hui l'actualité avec General Electric. Oui. On peut penser à Ascoval ou à Whirlpool, hein, des exemples emblématiques du moment où le scandale est permanent. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a la possibilité de sauver, de maintenir une activité, de maintenir des emplois. Mais la logique du profit ou la logique des affaires des uns et des autres l'emporte. Et finalement, l'État ou les pouvoirs locaux, ils sont dans l'incapacité de faire respecter l'intérêt général alors qu'il y a de l'argent public qui est dans l'histoire. Quoi. Donc c'est cette histoire-là qu'on essaie on essaie de batailler pour faire respecter l'intérêt collectif. Quoi.
Et alors batailler, reprendre le combat et restaurer la confiance aussi. Alors le PSE, il y a le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, n'encourage-t-il pas cette résignation ?
Ben si,
et
tout
le fait
est,
de baisser les bras.
Tout à fait, tout est très bien pensé, mais là, ça fait quand même des décennies que sont mis en place ce qu'on appelait avant des plans sociaux. Hein. Ça a changé aujourd'hui, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi.
Oui.
En fait, c'est des outils qui se sont perfectionnés au fil des années et qui permettent de montrer que finalement, c'est pas si grave que ça d'être viré ou pas si grave que ça qu'il y ait une fermeture d'usine, puisque regardez, on vous met en place un outil qui vous protège un peu, qui vous aide à retrouver du boulot, qui vous donne un peu plus d'argent que le minimum légal. Donc il y a tout un système qui est en place qui crée l'illusion que finalement on peut c'est une chance presque. D'ailleurs Ford le présente comme ça, c'est presque un cadeau. Regardez, vous allez rebondir dans la vie, vous allez pouvoir faire autre chose, vous allez pouvoir réaliser les espoirs de votre vie. Et de ce côté-là, les pouvoirs publics et l'État, ils jouent un rôle plus qu'ambigu et néfaste, puisqu'en fait par le PSE, ils jouent le rôle de celui qui dit finalement c'est pas si grave, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Et ce qui est évidemment faux, puisque les statistiques des PSE, c'est qu'au bout du compte, la plupart des gens se retrouvent dans des conditions précaires.
Les retraites, des pré-retraites quand même.
Alors les pré-retraites, c'est la seule chose qui est positive, presque positive dans le PSE.
Ça se comprend,
c'est qu'effectivement, il y a à peu près un tiers du personnel qui se retrouve presque épargné, dans le sens où lui, il n'est pas concerné par le chômage, même s'il va avoir des baisses de revenus. Parce que pré-retraite, évidemment, ça ne sera pas la même somme que le salaire qu'ils avaient. Mais au moins, ce n'est pas le chômage. Et puis, c'est 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 ans où ils seront en pré-retraite, donc avec la garantie d'un revenu qui sera de toute façon au-dessus du SMIC. Donc, c'est déjà ça. Ça limite la casse. Mais bon, ce n'est pas non plus l'idéal parce qu'il y a quand même une perte financière. Et puis, à côté de ça, il y a les deux tiers du personnel qui sont dans des situations d'interrogation. C'est-à-dire, il y en a qui vont avoir la chance de trouver un boulot correct, à peu près correct, mais d'autres qui vont pas trouver. Et même quand on va retrouver un boulot, ça sera forcément dans des conditions de salaire inférieures, même des conditions de travail certainement plus dures. Enfin, voilà, tout va être en négatif, finalement. Et donc, c'est pour ça que c'est deux centres très graves. Une grosse usine comme ça, comme la nôtre qui disparaît, c'est grave d'un point de vue social. Pas juste du point de vue d'une activité industrielle, parce qu'à la limite, fabriquer des voitures, des boîtes de vitesse, on s'en fout un petit peu. On peut fabriquer autre chose. Ce serait d'ailleurs l'occasion. Ce serait même l'occasion pour que l'État prenne en main.
On en reparlera.
Prenne en main une usine comme ça et puis discute de produire dans des conditions qui respectent l'environnement, dans des conditions sociales respectueuses. Il y aurait tout à revoir. Et donc nous, on se bat pas dans le sens qu'il faut absolument sauver une activité industrielle et notamment la bagnole. Mais par contre, une usine comme celle de Ford, ça représente des acquis sociaux. Ça représente de toute façon une importance d'un point de vue social dans une région qu'il faut préserver absolument. Absolument. Des salaires, des emplois derrière, et puis tout un tissu social qui fonctionne. C'est tout ça qu'il faudrait défendre. Et c'est vrai que c'est très grave à partir du moment où il y a des destructions comme ça, puisque ça a des conséquences qui touchent des milliers de gens.
Alors, dernière chose, nous l'avons vu pour Monsanto, les multinationales, dont le Ford, sont entourées d'une pléiade d'avocats qui les défendent. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi déséquilibré par rapport aux avocats de la partie adverse ?
Ah ben si, puis même par rapport à l'État, nous on s'est aperçu qu'effectivement l'État négociait avec les avocats de Ford. L'État ne rencontrait quasiment pas les dirigeants de Ford. L'État était en lien avec des avocats qui, chose extraordinaire, semblaient mieux maîtriser la législation française que l'État lui-même, que les services de l'État lui-même, y compris les services juridiques ou la directe, enfin tous ceux qui sont censés être les spécialistes de la législation du travail en France. Eh bien en face, ils avaient des avocats qui semblaient mieux maîtriser tout ça, qui devançaient, et du coup on assistait à des situations incroyables où l'État était dominé par les arguments de Ford, et Ford savait très bien où ils allaient, comment ils pouvaient gérer. Alors il faut reconnaître aussi que toutes les réformes du travail de ces dernières années, ou les réformes sociales globalement, elles ont toutes été à l'avantage des grosses multinationales, ce qui fait qu'elles sont pas cons, elles en profitent, et elles ont un ascendant, une supériorité, et elles ont un pouvoir qu'elles ont sur les États, sur les pouvoirs publics. Donc ça, c'est le problème qui nous est posé en règle générale. On le voit d'ailleurs, ce que vous dites avec Monsanto, on le voit de toute façon ce qu'ils font avec le TAFTA. Tout ce qui est mis en place, c'est tout simplement des pleins pouvoirs aux multinationales. Et mais c'est l'État lui-même ou les États eux-mêmes qui construisent leur propre impuissance. Et dans les cas de fermeture d'usine, ça devient spectaculaire. Ça fait que Ford se pavane presque et fait presque complètement ce qu'il veut. Et comme aujourd'hui General Electric, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'engager, écrire des promesses et puis y revenir dessus 2, 3, 4, 5 ans après, pas de problème. Donc c'est un peu tout ça qu'il faudrait inverser. Et c'est là, par contre, c'est vraiment une question de rapport de force, une question de bataille sociale qui permettrait de remettre les lois telles qu'elles étaient avant, puis de remettre en place des contraintes, enfin tout ce qui peut être protection pour l'ensemble de la population et des salariés. C'est pour ça que ça pose le problème, en fait, de la remise en cause du droit à la propriété, la remise en cause de la liberté d'entreprendre. Toutes ces choses-là, c'est fondamental. Si on ne s'attaque pas à ça, on se fait bouffer et tout le monde. Donc oui, effectivement, les exemples de Monsanto comme Ford ou General Electric montrent le danger dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quoi.
Salut, ce matin, j'ai un petit peu de temps libre. Je suis à Saint-Nazaire, entre Saint-Brieuc et Nantes, et Venanceau même, où je finirai la semaine au Yellow Circus. Et puis j'avais envie de mettre Plan Social en vidéo pour la partager avec les gars de Belfort. J'espère que je pourrai aller leur remettre en main propre, puisque cette chanson leur revient, leur appartient. On a rendez-vous au tribunal la semaine prochaine. Je te jure, mais sans blague, est-ce que c'est nous les criminels? On n'y verra pas les responsables de la mort de Jeannot, ni des 2000 familles sur le carreau. Ni des 2000 familles sur le carreau. Plan social, plan social, faux plan, foutage de gueule royal. Plan social, neuf langues pour dire ta gueule remballe. Au début on croyait pouvoir sauver l'usine, debout plutôt crever que de courber les chines. Unis, soudés, les bleus et les 30 ans d'usine. Mais la nuit, les patrons nous volaient les machines. Les gars des syndicats s'étaient fait balader. Reprise, promesse, rachat, c'était pour décorer. Les cartes étaient truquées et les jeux étaient faits. Mais les filles ont poussé et on s'est motivés. On a rendez-vous au tribunal la semaine prochaine. Je te jure, mais sans blague, est-ce que c'est nous les criminels? On n'y verra pas les responsables de la mort de Jeannot, ni des 2000 familles sur le carreau. Ni des 2000 familles sur le carreau. Oh, plan social, faux plan, foutage de gueule royale. Plan social, neuf langues pour dire ta gueule remballe. On ne sait plus combien de jours, ni combien de nuits blanches, combien de cris d'espoir et d'espoir de revanche. On se bat pour convaincre que tout n'est pas perdu, mais Jeannot seul trop loin un matin s'est pendu. Ça n'a pas fait de ligne à l'encre du canard, ça n'a pas arrêté le balai des costards. Et quand j'ai eu la gueule du dirlot sous la main, j'avoue là j'ai vu rouge, j'ai pas retenu mon poing. On a rendez-vous au tribunal la semaine prochaine. Je te jure mais sans blague, est-ce que c'est nous les criminels? On n'y verra pas les responsables de la mort de Jeannot, ni des 2000 familles sur le carreau, ni des 2000 familles sur le carreau. Plan social, plan social, faux plan, foutage de gueule royale. Plan social, plan social, neuf langues pour dire ta gueule remballe. Les télés sont tournées vers d'autres aventures, les familles se séparent, les chanceux bossent dur. Les suicidés ne toucheront pas un sou de leur retraite, mais l'action a grimpé, pour certains c'est la fête. Demain je serai jugé, oh là là, le supplice. Pour une gifle, une caresse, une chemise froissée, j'attends patient de savoir ce qu'en dira la justice. Ce serait bon de pas se trouver à portée de volée. On a rendez-vous au tribunal la semaine prochaine. Je te jure mais sans blague, est-ce que c'est nous les criminels? On n'y verra pas les responsables de la mort de Jeannot, ni des 2000 familles sur le carreau, ni des 2000 familles sur le carreau.
Philippe Poutou, nous continuons notre entretien. Je redis à nos auditeurs, à nos auditrices, que vous avez écrit un très intéressant article qui reprend l'historique, évidemment, de l'affaire Ford à Blanquefort, chronique d'un combat contre le fatalisme, paru en 2019, au mois de juin, en kiosque, que vous retrouverez en ligne. Alors, vous nous avez parlé, évidemment, du mauvais côté de l'affaire. Nous attendons le jugement du tribunal de grande instance. Alors, quels sont les espoirs et quels sont les mouvements, les combats, évidemment, qui s'annoncent? Je pense notamment à un concert. Et nous parlerons après d'un livre.
Oui, les espoirs, c'est qu'il y a la possibilité réelle d'avoir gain de cause en justice, hein, même si mm-hmm. beaucoup sont sceptiques. Ce serait original, c'est paradoxal, parce que ce qu'on fait, c'est pas original, en fait. Beaucoup de salariés, enfin de syndicats, dans des usines confirmées comme Continental, Molex ou Moulinex, enfin pas mal d'entreprises, attaquent, une fois qu'ils sont licenciés, pour absence de cause économique, parce que ça fait quand même très longtemps que des multinationales ou que des grosses sociétés arrivent à licencier, à liquider des emplois alors qu'elles font du profit. Et or, dans le droit, on peut pas faire comme ça. Donc, souvent, des salariés gagnent. Mais une fois qu'on est licencié, une fois que l'usine est fermée, si on gagne, c'est-à-dire pour ça veut dire que le licenciement, il est déclaré comme illégal. C'est ça, il est illégal parce que sans cause réelle et sérieuse. Mais sauf que il n'y a pas dans la loi l'obligation de réintégrer. C'est-à-dire le patron peut perdre en justice, mais il n'a pas d'obligation à reprendre. Donc le licenciement n'est pas annulé. Par contre, en attaquant au prud'homme, on obtient des indemnités supplémentaires, une sorte de rattrapage, quoi, finalement. Mais ça ne remplace pas l'emploi. Et nous, notre particularité, c'est qu'on saisit la justice, on a eu le temps, toute notre lutte, elle a permis de donner plus de temps, et finalement, on a réussi à, une fois que le PSE était homologué par la directe, une fois qu'il a été validé, que donc Ford met en place commence à faire partir les gens, et bien entre le moment où il commence à faire partir les gens et le moment où Ford avait planifié les licenciements contraints, c'est-à-dire à la fin, ceux qui partaient pas en volontaire, c'est un peu chiant ce que vous dites. C'est pas forcément simple ce que je vous raconte, mais voilà, c'est un peu de la situation. On avait du temps pour saisir la justice. Et on a eu la chance que le TGI accepte la procédure d'urgence. Et donc voilà, on a eu l'audience le 4 juin et le 2 juillet, les trois juges du TGI qui sont censés prendre la décision, donc vont nous rendre leur décision, leur jugement le 2 juillet. Et si jamais donc on nous donne raison, c'est-à-dire si l'absence de cause économique est reconnue, eh bien, la conséquence c'est que Ford ne pourra pas envoyer les lettres de licenciement. Voilà. Donc on a un espoir qui est réel parce qu'on est, quasiment sûr d'avoir raison sur l'absence de motif économique. Le problème qui est posé quand même, c'est que vu les conséquences, ça veut dire que la décision elle est quand même importante. Et donc ça veut dire qu'il y a une pression forcément quelque part sur les juges, sur le TGI. Est-ce qu'ils vont oser aller prendre cette décision-là qui, du coup, serait une interdiction pour Ford de nous licencier et, du coup, aurait des conséquences politiques importantes. Puisque si nous, on gagne, derrière, ça suppose qu'il peut y avoir aussi jurisprudence et donc ça peut encourager des luttes et donc ça peut mettre aussi, y compris l'État, dans une position pas si à l'aise que ça, puisque, en fait, lui, il aura été incapable de sauver l'usine et c'est nous, par notre action en justice, qui aurons réussi. Ah, voilà. Donc ça a quand même des conséquences importantes qui peuvent, enfin voilà, qui fait que y a un suspense quoi. Donc voilà, oui, on verra bien. Donc ça c'est quand même pour nous quelque chose qui est évidemment très important et notre espoir là-dessus il est légitime en fait.
Oui bien sûr. Alors de nombreuses personnalités vous soutiennent. Il y a d'abord des chanteurs puisque vous avez annoncé un concert. Je pense pour la rentrée, alors ça sera peut-être un concert de reprise.
Mais voilà, bon,
Ford,
c'est pas,
on espère.
Voilà.
Le concert aura lieu.
C'est le troisième concert qu'on organise. Oui. On en a fait en avril 2018, on en a fait un le 2 mars 2019, et donc le 21 septembre de cette année à la salle du Krakatoa à Mérignac, on organise donc notre troisième soirée de soutien. Et c'est important pour nous parce que ça permet de montrer. On fait ça parce qu'en fait, ça montre qu'on ne lâche pas l'affaire, qu'on se bat, qu'on résiste et qu'on essaie de le faire aussi dans une ambiance festive, qu'on n'est pas juste en train de se morfondre, mais le combat, c'est aussi, ça peut être dynamique. Et puis, voilà.
Positif,
et puis, c'est important aussi de montrer que ce n'est pas qu'une histoire d'ouvriers, en fait, qui perdent leur boulot. Ce n'est pas qu'une histoire de salariés qui sont encore victimes des méchants capitalistes. On essaie aussi de montrer que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, la population, par les conséquences, mais en même temps le milieu des artistes, le milieu intellectuel. Et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est qu'on trouve que c'est très important de faire en sorte que des intellectuels ou des artistes se positionnent en soutien et qui même organisent des choses avec nous. Et les concerts, c'est déjà ça, c'est d'arriver à montrer qu'on peut dire la même chose ensemble.
Bien sûr.
Et bon voilà, donc c'est pour ça que Kali, le chanteur Kali, revient une deuxième fois pour assurer une partie de la soirée. Et on aura d'autres artistes, des humoristes qui vont venir, comme Pierre-Emmanuel Barré ou Thomas VDB. Voilà, on est en train de construire la prochaine soirée. Mais on avait eu Lavillier l'année dernière, on avait eu Les Hurlements de Léo et Kali déjà
en mars.
Voilà, donc ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir des gens, surtout quand ils sont un peu connus, mais pas que, parce qu'il y a aussi des artistes pas connus qui viennent. Donc ça fait chaud au cœur, mais ça permet aussi de dire ça, quoi. Ouvriers, artistes, on se bat ensemble contre des logiques, des choses qui pour nous sont inadmissibles.
C'est important d'être soutenu. Ah ben nous allons écouter Kali. C'est quand le bonheur ?
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot. Espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à fond qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain, la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis rendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, Je suis pendu à la cravate dans mon costume Bob Macabre. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ses vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Nous allons clore ce chapitre de l'usine Ford, mais je voudrais parler évidemment de quelque chose d'important, c'est l'ouvrage collectif paru en 2018, Ford Blanquefort, même pas mort, aux éditions Libertalia. Les droits d'auteur de cet ouvrage seront reversés à l'association de défense des emplois chez Ford. Alors comment est née cette idée ? Vous avez préfacé l'ouvrage d'ailleurs.
Ben oui, l'idée, c'est elle est venue de ma compagne, donc Béatrice Valilo, qui a fait l'introduction, ou je ne sais plus comment on appelle ça dans le livre, le premier texte du livre.
Ah, le premier.
Et moi, j'ai fait la préface aussi juste après. Et donc l'idée, c'était... plutôt que de faire un livre qui raconte la lutte, qui s'adresserait en fait juste à un milieu militant ou déjà intéressé, on s'est dit ce serait bien de faire un livre qui permette à des artistes et des intellectuels de pouvoir marquer leur solidarité avec le combat à leur manière, avec leur style, avec ce qu'ils avaient envie de dire. Et donc en fait, on a proposé à des gens qu'on connaissait plus ou moins, on a proposé cette idée-là d'un recueil de textes et de manière à ce que justement il y ait une liaison entre le milieu ouvrier, le milieu intellectuel et artistique, ce que je disais tout à l'heure pour les concerts. Là, on pouvait en plus le faire aussi avec des intellectuels. Et donc, en fait, l'idée de départ, c'était une fermeture d'usine avec une catastrophe sociale. Qu'est-ce que ça leur inspire ? Voilà. Donc, c'était même pas de parler de Ford. C'était, voilà, de parler de cette situation de licenciement, de chômage.
De précarité aussi.
Ouais.
De voilà, tristesse.
De choses qui, a priori, sont plutôt tristes. Mm-hmm. Et donc, voilà. Comment on peut en parler? Mm-hmm. Et donc, on s'est adressé à Serge Halimi, donc, qui est journaliste. On s'est adressé à un linguiste, Philippe Blanchet. Après, on s'est adressé à Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont sociologues.
Hervé Lecor,
qui est écrivain. Mm-hmm. Dominique Monique Manotti, écrivaine aussi de Polar, François Morel, et puis Sorge Chalandon, des écrivains, et qui ont fait des belles, qui ont fait des récits, qui ont raconté des petites nouvelles. Et donc, et dans ce bouquin, on a aussi, c'était important parce que c'était presque au départ, finalement, la base du bouquin, c'était les dessins de dessinateurs de presse. Parce qu'en fait, entre le début de l'annonce de Ford qui voulait fermer l'usine en février 2018 et donc jusqu'à juin, on avait commencé à solliciter des dessinateurs pour illustrer notre acte. Et d'ailleurs, notre acte, notre petit journal qu'on a fait, c'était le journal Bonne Nouvelle, il s'appelle comme ça depuis des années dans l'usine Ford, le journal de la CGT. Ah oui. Et à partir de l'annonce où Ford dit « cette usine-là, on n'en veut plus », on a sous-titré notre tract, notre petit journal, « Même pas mort ». En disant, ben voilà, vous voulez nous fermer, ben vous allez voir, c'est pas perdu, c'est pas plié, on n'a pas dit notre dernier mot. Et donc le bouquin, il s'appelle Même pas mort. Donc l'idée, c'était ça, avec des artistes, et avec des Guillaume Meurice, des Didier Super, qui sont des humoristes aussi, et qui permettaient un peu de donner la pêche. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. C'était comment de dire, ben voilà, nous, on baisse pas la tête, on se bat, et en plus, on a du soutien d'artistes, d'intellectuels, et on essaie de faire quelque chose qui avait l'objectif de faire parler de cette usine-là qui était en train de fermer, de faire parler même globalement de toutes les usines qui ferment, de toutes les suppressions d'emplois qu'il peut y avoir, que nous on considère comme complètement injustifiables, mais dans un esprit comme ça, quoi, dans un esprit combatif, dans un esprit en plus avec cette idée d'ouverture et que ce n'est pas juste une histoire d'ouvrier, que ce n'est pas juste ça qu'il faut raconter, c'est un problème de société en fait.
Voilà, donc vous êtes Philippe Poutou, vous êtes un militant, vous êtes aussi un historien intéressant. Donc il y a des pages d'illustration, il y en a 5, il y a 17 illustrateurs.
Hein. Ouais.
Barre, Visan, Oups, Emma, Plantu, Mann, voilà. Et également la chanteuse Juliette.
Voilà, oui, on a presque cité tout le monde du coup.
Pas tout à fait, non, 17 illustrateurs.
Oui, parce qu'il y a 17 dessinateurs, c'est vrai, il y a une trentaine de dessins, puis il y a 12 textes, donc il y a 12 auteurs.
Oui, merci.
Et c'est un livre qui est sorti en septembre l'année dernière et qui est vendu encore à 8 euros, qu'on peut trouver chez les, je ne dirais pas les grands noms de libraires de Bordeaux, mais on peut trouver aussi chez les petits libraires, comme chez Urps d'ailleurs, La Mauvaise Réputation ou la Machine à Lire à Bordeaux, enfin voilà, donc, mais on peut le trouver partout. L'idée, ce n'est pas tellement finalement d'avoir de l'argent, parce que là, comme vous le disiez au départ, les droits d'auteur vont à l'association de défense des emplois de Ford. Mais l'idée, c'était justement de raconter tout ça, de montrer qu'il y avait toutes les raisons de relever la tête, de se battre et de le faire dans un état d'esprit très... à la fois combatif, mais de bonne humeur. Quoi.
Oui, bien sûr. Alors, Philippe Poutou, vous avez publié en 2012, aux éditions textuelles, « Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule ». Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage ?
Ah, ça commence à dater, c'était la première campagne.
Oui.
C'est un tout petit livre, parce que moi, je ne suis pas capable d'écrire, de toute façon. Donc, c'est un bouquin qui doit faire 30-35 pages de souvenirs. Et c'était pour à l'époque, c'était la présidentielle de 2012. Donc ça, c'était un ouvrage. Au départ, l'idée, c'est avec le NPA, c'est d'essayer de faire connaître le nouveau candidat que j'étais, mais avec ce qui nous caractérisait. C'est-à-dire, là, déjà, à l'époque, c'était la lutte Ford. Donc c'était l'ouvrier en lutte avec ses collègues pour sauver son emploi. Et puis c'était la volonté d'essayer, à partir de là, de raconter un peu l'idée qu'en fait notre camp social, qui est souvent invisible, qui est opprimé, qui est écrasé dans son coin, c'était important qu'il puisse parler lui-même, prendre la parole et puis défendre ses propres intérêts, en fait, prendre ses affaires en main. Donc le bouquin, c'est un peu tout ça, en rappelant un peu nos idées, qu'on est féministe, qu'on est antiraciste, internationaliste, enfin voilà, de rappeler un peu ce qui caractérise notre courant de pensée. Et puis puis en fait, c'est l'idée qu'on pense qu'il faut qu'on change profondément la société, qu'il y en a ras-le-bol de cette société violente, avec toutes les formes d'oppression qu'il peut y avoir, les inégalités diverses et variées. Voilà. Donc c'est un peu c'était l'idée de ce bouquin-là, en 35 pages à peu près, c'était de dire qui on était, puis pourquoi on était là.
Qu'on
ne voulait pas prendre le pouvoir à travers une présidentielle, qu'on ne voulait pas être président, que je ne voulais pas être président, mais par contre, on avait des tas de choses à dire. Et voilà. Mais depuis, d'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'il exprime aussi, même si c'est des fois pas toujours homogène, où il y a plein de trucs, mais c'est vrai que c'est c'est ça, c'est en fait c'est cette colère qui existe depuis très longtemps et qui commence à s'exprimer, un ras-le-bol contre une société qui est profondément injuste, une aspiration à vivre de manière décente et avec les autres, collectivement. Enfin, on voit bien qu'il y a une société qui est de plus en plus dure, qui s'attaque à tout, hein, tout ce qui peut être collectif, les services publics qui sont démantelés, la santé aujourd'hui, on voit c'est dramatique, les hôpitaux qui ferment, les conditions de travail qui sont dégueulasses pour tout le personnel hospitalier.
Enfin, d'urgence.
Oui, voilà, les services d'urgence qui sont en lutte aujourd'hui. On voit bien sur la question du racisme, la question des migrants, enfin, comment on est dans une société brutale, hein, qui n'est même pas capable d'accueillir la misère humaine qui est à nos portes. Et puis, la question écologique, une planète qui nous fait peur, parce qu'on ne sait pas comment les générations suivantes vont pouvoir vivre. Donc voilà, donc il y a un peu ce message aussi, il y a une alerte, quoi. Il faut, et pour nous, la seule façon de changer, eh bien, c'est que la population prenne ses affaires en main, se batte par elle-même, s'organise. Qu'il ne faut pas surtout attendre des autres qui règlent les problèmes. De toute façon, ils en sont incapables et puis ça va même en empirant. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on veut exprimer.
Et vous, ce livre peut-il se trouver encore ?
Oui, il se trouve encore. Il doit en ligne, on peut le commander. Ouais, oui. Sûrement, je pense que tout n'a pas été vendu.
D'accord.
Quand les vieux se font matraquer, vu qu'ils sont plus mous, peut-être ils ont moins mal. Mais j'en ai rien à foutre. Les gars qui se retrouvent en tôle aussi vite qu'un tir de flashball, j'en ai rien à foutre. Les politiques arvéreux qui n'iront jamais en tôle, mais non mais eux c'est pas pareil, mais j'en ai rien à foutre. Les foulards rouges sont tellement cons, on a tous cru que c'était de l'humour, j'en ai rien à foutre. Par contre mes achats de Noël aux Champs-Élysées cette année c'était compliqué, ça fait chier. Il est un an de la mort de Johnny, du coup ils en ont presque pas parlé. Ça aussi, ça fait chier. Quand les gens ils disent au gouvernement qu'ils ont la dalle, le gouvernement il répond: ok, d'accord, on a entendu. On va rétablir les 90 km/h. J'en ai rien à foutre. Et ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller se faire cuire un œil. J'en ai rien à foutre. Leur grand débat de mes couilles, qu'en fait c'est juste pour se faire un petit peu de pub. Rien à foutre. On comprend mieux pourquoi en 2017, leur programme il avait l'air un petit peu flou. J'en ai rien à foutre. Y'a eu plein de morts, plein de blessés graves, plein de mutilés à vie. Et le gasoil y'a même pas baissé de 10 centimes. Ça fait chier. Le seul truc bien c'était les péages gratuits, mais maintenant c'est fini. Ça aussi, ça fait chier. Pour que les manifs finissent à l'heure, les flics se déguisent en casseurs. Mais j'en ai rien à foutre. Et ça, BFM, ils ont pas l'air d'être au courant. Alors que putain, c'est quand même des journalistes professionnels. J'en ai rien à foutre. À chaque fois que les gens, ils ont l'air de se calmer, l'autre, il trouve toujours une nouvelle connerie à dire pour les énerver. J'en ai rien à foutre. Faut uniquement boxer des pauvres pour mériter sa petite médaille. J'en ai rien à foutre. Pour éviter les dictatures, faut toujours des révolutions. Ça fait chier. Parce qu'après chaque révolution, c'est 50 ans de dictature. Et ça, franchement, c'est chiant.
Alors, vous l'évoquiez à l'instant, Philippe Poutou, la question sociale a été ravivée par le mouvement des Gilets jaunes depuis novembre 2018. Vous l'aviez flairé depuis quelques années. Pourquoi avoir soutenu ce mouvement apolitique dès le départ ?
Et c'est vrai que dès le départ, on le voyait bien, en tout cas du côté des militants syndicalistes ou du côté de ce qu'on appelle la gauche sociale, politique, militante, il y a eu une sorte de méfiance au départ, parce qu'on se dit d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, parce que ça venait complètement en dehors des réseaux militants habituels, des structures habituelles qui organisaient les manifs et tout ça. Donc il y a eu au tout début au moins une méfiance. En plus, c'était médiatisé, ça plaisait même à la droite. On se rappelle quand même le côté anti-taxe, anti-impôt. Donc on voyait bien que c'était des revendications qui n'étaient pas habituellement celles du mouvement social ou celles de gauche, mais qui étaient plutôt des revendications de droite, patronales. Donc du coup, ça on parle là du mois de novembre, avant la première manifestation. On se disait, mais d'où on comprenait pas tout ce qui se passait. Et puis, de suite, dès la première manifestation, c'était visible, c'était un cri de colère. Un cri de colère qui était celui d'une population pas homogène, hein, parce que c'était à la fois des retraités, des chômeurs, des gens qui bossaient, des petits commerçants, des petits paysans, parce que c'était pas que les villes, c'était aussi les agglomérations, et y compris les zones rurales. Oui. On voyait un peu cette population que certains appellent le peuple, hein, une population socialement pas identique, géographiquement éparpillée, mais qui criait sa colère, le ras-le-bol d'une société qui écrase tout, en fait, hein, et puis qui casse les solidarités, qui divise, qui isole les gens. Et il y avait une aspiration, on le sentait bien, quoi. Et donc, oui, on s'est solidarisé de ce mouvement-là de suite, malgré des aspects, évidemment, qu'on ne partageait pas ou qu'on ne partage toujours pas. Parce qu'une population qui se met en colère, elle se met en colère avec les idées qu'elle a. Et donc, on voyait bien des aspects un peu racistes, des aspects même sexistes, des aspects antisémites. On a vu, hein, dans le mouvement des Gilets jaunes, pas mal de choses qui étaient particulièrement déplaisantes. Mais ce qui était important, c'était que, justement, la gauche, les milieux syndicalistes, associatifs, il fallait qu'ils s'investissent là-dedans pour justement que ce mouvement-là, il puisse s'organiser et qu'il puisse aussi devenir finalement un mouvement de contestation de cette société-là, qu'on ne se fasse pas piéger dans les divisions et tout ça, mais que ça devienne vraiment un mouvement qui exprime clairement une aspiration à une vie collective, à l'égalité des droits pour toutes et tous, et puis à la vie décente pour tout le monde. Donc voilà, mais c'est la force de ce mouvement-là, c'est le culot et puis une colère réelle. Et pour nous, ça a été très positif parce que justement, il est né dans une situation où le mouvement syndical n'était plus capable de faire grand-chose finalement. Ou même le mouvement, globalement, la gauche politique, complètement incapable d'organiser quoi que ce soit. Et bien, du coup, c'est né comme ça. Et bon, alors aujourd'hui, malheureusement, on pourrait presque dire que à quoi ça aboutit, puisque le mouvement des Gilets jaunes, on le voit les samedis, il y a moins de monde, dernier, ça a un petit peu, il y a eu un petit sursaut.
Mais il y aura la rentrée.
Voilà, on verra là, on espère. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on peut penser, c'est que ça va laisser des traces énormes et qu'il y a une politisation réelle de plein de gens, des gens qui n'avaient jamais manifesté, des gens qui n'avaient jamais fait grève ou qui n'avaient jamais milité d'une manière ou d'une autre. Et bien là, on peut penser que plein de gens se sont mis à discuter ensemble, à essayer d'organiser des choses, que ce soit occuper un rond-point, que ce soit manifester ou des tas d'actions diverses de blocage, comme les péages et tout ça. Et ça, c'est important parce que nous, on pense que c'est fondamental, c'est des gens qui apprennent à se défendre par eux-mêmes, et ça, c'est irremplaçable. Donc, ce mouvement-là, il a réussi à politiser certainement plein de gens dans les campagnes, dans les zones, dans les villes, dans les zones périurbaines. Ça a permis certainement même de connecter des milieux qui n'étaient pas forcément à se rencontrer, à se côtoyer.
Et nous, on pense que c'est...
qui se sont
déjà
exprimés,
beaucoup.
Et très bien même, parce que du coup, on s'est aperçu que des gens comme ça, qui arrivaient de nulle part, pour certains, arrivaient à dire des choses vachement mieux que des tas de gens, même des fois, nous militants, on se dit, ils arrivent à exprimer une colère simplement. Je trouve que c'est très rassurant. Et ça veut dire que quand il y a des conditions favorables à une explosion sociale, où les gens ont envie de parler, ça veut dire que c'est possible. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ce mouvement-là, c'est une étape qui va vraiment se construire. Et qu'en septembre, il y a quelque chose qui se passe, qui rebondisse et qui mette le pouvoir plus qu'en difficulté, quoi, qui arrive à stopper toutes les nuisances des décisions politiques actuelles et qu'il y ait un changement profond dans la société, c'est ce qu'on espère.
Alors, les revendications des Gilets jaunes croisent parfois vos revendications à vous.
Tout à fait. Même si au départ, il y a beaucoup à ironiser parce qu'on dit « Ah, mais les taxes carburants... en fait, ils s'en foutent de polluer, tout ça, ce qui était caricatural et archi-faux. En fait, mais souvent, les mouvements sociaux, ils démarrent sur des aspects qui peuvent paraître dérisoires. Parce que même le mouvement au Brésil, il y a 3 ans, là, quand il y avait la Coupe du Monde au Brésil, il y a eu toute une contestation sociale. C'est parti sur le prix du ticket de bus. En Turquie, quand il y a eu l'occupation de la place à Istanbul, c'était sur les arbres qui devaient être coupés. Donc, des mouvements sociaux, des fois, ils démarrent sur un truc qui déclenche. Oui. Et là, le mouvement des Gilets jaunes, il avait démarré sur l'augmentation du prix du diesel ou de l'essence en général. Et donc, ça avait fait ironiser certaines personnes. Mais en réalité, c'était tout simplement ce qui pesait très lourd dans le budget et qui rendait presque impossible d'imaginer de pouvoir vivre. Et donc, ça part là-dessus. Mais le problème posé par les Gilets jaunes, c'est tout simplement vivre normalement. C'est vivre de son travail, avoir un bon salaire. Ce sont les services publics. Besoin d'un transport public, besoin d'un système de santé qui soit accessible à tout le monde. Et du coup... c'était aussi la question de la fiscalité. Parce que c'était pas juste que nous on paye les impôts, c'était pas contre le fait que les pauvres payent les impôts, c'est sur le fait que les riches ils payent plus d'impôts, ou les très riches. Et donc c'était la question de la justice fiscale. Alors ça s'est exprimé de manière des fois peut-être maladroite, des fois pas toujours très claire, mais ce qu'on a vu au fil des semaines, comment le mouvement s'est construit et comment il a pris confiance en lui-même, là on a vu quelque chose qui est apparu beaucoup clairement, beaucoup plus clairement, c'était finalement une revendication saine d'une classe sociale, peut-être pas homogène, peut-être très, très diversifiée, mais en tout cas, on s'est tous retrouvés là-dedans. Ben ouais, on voyait bien qu'il y avait des inégalités sociales qui étaient inadmissibles et qu'il fallait que tout le monde puisse vivre normalement. Et ça passait par le fait que ben, les très riches, et ben, ils payent à un moment donné ce qu'ils doivent payer et que les services publics doivent être maintenus pour tout le monde.
Bien sûr, c'est une revendication qu'on retrouve souvent, la fin des indemnités présidentielles à vie, la lutte contre l'évasion fiscale.
Tout à fait.
Aussi. Vos priorités aussi sont un peu les mêmes, la santé, écologie, l'éducation et la sécurité. Agir pour l'écologie, qu'est-ce que ça signifie pour vous, Philippe Poutou?
Ben là, on voit l'urgence hein, de la situation, quoi, les dégâts environnementaux, et là, c'est à l'échelle planétaire. Donc là, agir, ben, c'est là où on voit qu'il y a dans les milieux écologistes, comme ceux qui ont gagné les élections européennes, enfin, ceux qui ont fait un très bon score, là, EELV, on voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, parce qu'en fait, il y a une urgence que tout le monde constate aujourd'hui, quasiment tout le monde, même Macron reconnaît que, hein, certainement pour des raisons démagogiques et électoralistes, mais tout le monde reconnaît qu'il y a un problème climatique et un problème environnemental. Mais c'est quoi les solutions? Et nous, on pense que justement, il faut s'affronter dès maintenant aux choix économiques qui sont faits, parce que ce sont les choix économiques actuels qui conduisent à une situation de plus en plus dramatique par la suite. On peut parler du nucléaire, on peut parler de toutes les énergies extractives, hein, les mines, on continue à extraire, on continue à prospecter, on continue le gaz de schiste, même si en France c'est un peu contenu, il y a des lois qui fait qu'on ne va pas encore très loin là-dessus, mais enfin partout dans la planète ça continue. L'utilisation des carburants, enfin du pétrole et tout ça, et on voit bien que la réponse aujourd'hui d'urgence, ce serait de rompre avec tout ça et ce serait de mettre en place de suite des énergies, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais ce n'est pas que des paroles, c'est de les mettre en place. Et puis ce serait la question des transports, c'est la gratuité des transports publics et qui permettrait justement de sortir du tout voiture, de sortir du tout camion. Ça, ce sont des urgences, mais on voit bien que les choix politiques ne sont pas faits dans ce sens-là. Mmh. Même au contraire, ça supprime des lignes de chemin de fer, ça ferme des gares alors qu'on devrait développer ça. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de dire qu'on est d'accord sur la crise écologique. C'est quelles mesures on prend immédiatement. Et nous, on pense qu'être écologiste aujourd'hui, c'est prendre des mesures justement qui se heurtent, qui se confrontent aux choix capitalistes du moment. Et donc, ça veut dire défendre les services publics, obligatoirement, mais immédiatement. Là, la vague de chaleur, aujourd'hui, on dit que la réponse, ce serait la gratuité des transports publics instantanément, au moins dans la période de canicule, qui permettent d'encourager clairement le fait de ne plus utiliser sa voiture, parce qu'on sait que ça ne va pas arranger les choses. Et puis, bon, quand on sait en plus toutes les maladies liées à la respiration des gaz carboniques dans l'atmosphère et tout ça. Donc il y a cet aspect-là du transport qui apparaît fondamental et l'aspect de l'agriculture. Il faut stopper l'utilisation intensive des pesticides et tout ça. Mais ça veut dire remettre en cause l'agriculture intensive et productiviste. Ça veut dire revenir à une agriculture paysanne de la petite propriété et même redévelopper autour de Bordeaux. Voilà, mais c'est très marginal. Il faudrait remettre autour de Bordeaux des maraîchers, tout ça. Il y a des jeunes qui sont volontaires, il y a des gens qui seraient prêts à faire ça. Donc ça veut dire remettre à disposition des terres. Voilà, enfin, il faudrait aller à l'encontre de tout ce qui se fait depuis des années. À Bordeaux, on voit quoi? Ça construit de partout des logements, des bureaux. C'est scandaleux, c'est moche en plus. Alors qu'il y aurait des tas d'autres choses à faire. Donc en fait, il y aurait de quoi s'engueuler là-dessus, quoi. Mais c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et c'est révoltant, c'est de stupidité même quand on voit ce qui se passe. On se dit mais ça va mal finir tout ça. Donc c'est pour ça il y a une urgence. Et c'est vrai que l'urgence climatique, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est posé par le mouvement des Gilets jaunes, l'urgence climatique, elle est complètement liée à l'urgence sociale, en fait. On s'aperçoit qu'une revendication écologiste, elle va de pair avec la revendication sociale, parce qu'on peut répondre aux deux problèmes en même temps, à la condition de s'attaquer aux politiques égoïste de tous les privés, productivistes, tout ça.
Oui, matériel, oui. Alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez la fermeture potentielle de l'usine Ford de Blanquefort. Vous disiez, l'important, ce n'est pas de fabriquer à nouveau des boîtes de vitesse nouvelle génération, mais ça serait peut-être d'ouvrir de nouvelles possibilités avec une énergie propre.
Ah ben c'est sûr, mais nous c'est ce qu'on a dit, qu'on a peu l'occasion de développer malheureusement, oui, parce que quand on est dans une lutte comme la nôtre, on est dans une forme d'urgence et on pose des problèmes un peu vite fait, c'est-à-dire que nous on veut sauver notre emploi, on veut sauver notre salaire, et c'est vrai que des fois le raisonnement il va pas très très loin, mais parce qu'on sait pas trop comment pousser le raisonnement jusqu'au bout quoi. Mais c'est sûr que l'usine Ford par exemple, elle existe, et nous ce qu'on avait dit, on a déjà dit à Bercy, à tous ces gens soi-disant responsables, on leur a dit, l'usine autant faire quelque chose sous contrôle de l'État et qui, plutôt que de fabriquer des boîtes de vitesse pour voitures, pourquoi on ne fabrique pas tout ce qui peut être en lien avec le transport collectif.
Par exemple,
on est dans le transport.
Oui.
Si on reste dans le transport, nous, on ne se battait pas pour absolument refaire des boîtes de vitesse. En réalité, on n'en a rien à faire. Nous, on ne se bat pas pour faire de la voiture. On n'est pas en train d'idéaliser. Travaille dans l'automobile. Mais on n'a pas envie de dire on veut rester des ouvriers d'automobile. D'ailleurs, aujourd'hui, tous ceux qui sont virés, qui vont retrouver autre chose, ils ne seront plus dans l'automobile. Donc nous, on ne défend pas ça. Mais par contre, c'est quand même des occasions manquées de la part de l'État, de la part des pouvoirs publics, de profiter de ces situations-là pour dire, eh ben, nous, on va prendre en main un secteur clé qui est celui du transport collectif, et donc transformer des usines qui fabriquaient des voitures en des usines qui peuvent fabriquer des choses qui répondent à l'urgence climatique, à l'urgence environnementale. Mais ça, évidemment, ils n'en sont pas du tout là. Eux, leur seule idée, c'était qu'on soit repris par quelqu'un qui fabrique aussi des boîtes de vitesse. Bon, et le repreneur dont vous parliez tout à l'heure, il fabriquait des boîtes de vitesse. Donc nous, on se disait, c'est pas terrible, on va pas dire non plus, parce que ça sauve notre boulot. Mais c'est tout le problème aujourd'hui d'une mobilisation de la population dans ces cas-là qui permettrait justement de poser ces problèmes politiques et sociaux. C'est-à-dire on se bat pour défendre l'emploi, finalement, le droit de vivre, mais la production, ce serait bien qu'on soit des millions de gens à discuter de ce qu'on aura envie de produire, de ce qu'il faudrait produire. Mais ça, c'est tout le problème. Mais un mouvement des Gilets jaunes peut être en capacité, s'il devient plus fort, de poser ce genre de problème et de dire, ben voilà, nous, l'avenir qu'on veut, c'est celui-là. C'est pas le vote, c'est celui-là. Et c'est peut-être tout ça dans les mois qui viennent, vont pouvoir s'affiner dans la tête des gens.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors nous arrivons au terme de notre entretien. Philippe Poutou, quels sont vos projets en tant que militant pour 2020 et 2022 ?
Alors, je ne sais pas, mais parce que il y a un truc que je vais rajouter par rapport au mouvement des Gilets jaunes, j'y pense maintenant, mais ça fait partie des projets dans l'avenir.
Bien sûr, c'est complexe.
C'est qu'on s'est aperçu quand même que la contestation sociale aujourd'hui est confrontée à une violence de la répression qui est terrible. Et ça, c'est difficile de ne pas en parler, parce que alors que le mouvement des Gilets jaunes, il a plutôt tendance à s'affaiblir et puis à faire peut-être une pause pendant l'été, on va voir, la répression continue, parce qu'il y a une répression judiciaire aussi, des arrestations, parce qu'après la garde à vue, il y a l'arrestation, le jugement. Et il y a des peines et des choses très graves qui se passent, y compris dans le milieu syndicaliste, en marge du mouvement des Gilets jaunes ou à côté du mouvement des Gilets jaunes. Il y a une répression qui devient une habitude et qui s'est systématisée complètement.
Il y a des émeutiers aussi sont complètement extérieurs au mouvement.
Oui, mais bien sûr, il y a ça, mais c'est pas ça qui justifie. Enfin, ils s'en servent. On a vu le pouvoir. De toute façon, le pouvoir s'est toujours servi d'une frange un peu radicale pour dire, eh bien, regardez, il y a ça, donc on va. Mais il y a quand même de fait une répression qui s'attaque tout simplement au droit de contester, au droit de manifester. Et ça, c'est l'urgence du moment aussi, une des urgences du moment, mais qui va de pair avec la contestation sociale. Il va falloir faire respecter la possibilité de manifester, la possibilité de se battre, de dénoncer, la possibilité même de bloquer, d'occuper un espace. Et il va falloir faire respecter ça, parce que sinon, c'est tout simplement le droit démocratique qui est remis en cause. Et on est dans une phase d'une société qui peut aller assez rapidement vers une société sans liberté politique, une société policière, une société autoritaire. Et ça, c'est le danger qui est immédiat à notre avis, quoi. Donc ça fait partie des combats qu'il va falloir qu'on mène dans la période qui vient, au moins faire respecter ce droit-là à exprimer les choses et à ne pas être d'accord. Et donc, ben, ça suppose des possibilités de manifester là où on veut, quand on veut. Voilà, donc c'est tous ces problèmes-là qui sont posés quand même, quoi.
Voilà, donc vous avez particulièrement répondu à notre question sur vos projets, puisque vous ne pourrez pas vous représenter d'après les règles du parti.
C'est pas les règles, c'est les volontés. Mais c'est l'intention qu'on a, c'est de pas d'éviter
en
ça.
2022, voilà.
Juste en espérant que dans 3 ans, on n'en soit pas à discuter d'une élection présidentielle, qu'on en soit à discuter peut-être d'un mouvement social qui est tellement fort qu'il aura réussi par lui-même à mettre en place des structures démocratiques et qu'il aura réussi à mettre en place ou à imposer une politique qui réponde à l'urgence sociale. Et parce que là, on a le calendrier électoral, effectivement, les calendriers institutionnels, c'est qu'on se dit, bah, tiens, bah, dans 3 ans, c'est les présidentielles et c'est peut-être là que... Mais peut-être que les choses vont se passer avant.
Oui.
Hein, dans l'histoire, il y a
eu... Il est remis en question, d'ailleurs, et par les demandes de référendum.
Ouais, mais là, il y a il y a l'exemple qui est très partiel, mais sur la question des aéroports de Paris.
Par exemple.
Bon, voilà, mais si un mouvement social arrive à donner le ton, il peut y avoir des changements profonds dans la société avant l'élection présidentielle. Et ce qui serait bien, c'est que justement, des millions de gens fassent de la politique directement, s'organisent et n'attendent pas juste le moment où on met un bulletin, parce que c'est souvent très frustrant et décevant, quoi.
Alors, qu'est-ce que réussir pour un parti politique ?
Pour nous, en tout cas, la réussite, ce serait qu'il y ait des gens partout qui s'organisent, qui se battent, qui sortent de la résignation, qui relèvent la tête et qui ont confiance en eux-mêmes. Voilà. Pour nous, ce serait ça, parce qu'en fait, c'est certainement la différence avec les partis politiques classiques, hein, qui se présentent aux élections et qui veulent absolument des mandats, diriger une ville, diriger une région, et puis après faire du clientélisme, et puis avoir les gros revenus qu'offre quand on est député, 6 000 euros, quand on est sénateur, 6 000 et quelques, quand on voit qui n'ont pas honte d'expliquer après aux autres que le SMIC c'est suffisant, hein, un SMIC à 1200 euros, ou qui vont expliquer à d'autres que bosser à 62 ans, 63 ans, c'est le mieux, alors qu'eux, ils ont une retraite au bout de 2 mandats. Enfin voilà, et que 2 mandats, c'est au bout de 10 ans. Donc tout ça, c'est scandaleux. Donc, d'ailleurs, c'est posé aussi par le mouvement des Gilets jaunes, cette question que vous disiez tout à l'heure, question de ces élus-là déconnectés de la population.
Le parlementarisme, oui.
Ah, ouais, donc nous, évidemment, que tout ce qui peut aller dans le sens d'une population qui s'organise, quand il y a une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, quand les jeunes se sentent assez costauds pour occuper, pour dire nous on pense qu'il faut faire comme ça, nous on refuse ce projet-là, c'est ça la réussite, c'est quand la population elle a assez de confiance et de combativité pour faire ça par elle-même. Et nous, c'est ce qu'on veut, on aspire à ça, donc à ce que des millions de gens, un peu comme en Algérie aujourd'hui, la contestation de la population algérienne, ça fait du bien moralement, c'est réjouissant, c'est quand on voit cette jeunesse qui est dans la rue, qui se bat et puis qui dit le dictateur on n'en veut plus, et puis pas que le dictateur, on veut pas le système, on veut pas l'armée, on veut pas la corruption. Quand la société elle évolue comme ça, ça fait du bien et ça rend un peu optimiste pour la suite.
Bien sûr, le peuple, le pays prend sa destinée en main, c'est normal. Voilà, donc je vous remercie Philippe Poutou d'être venu nous voir. Je rementionne le livre que vous avez publié en 2012 aux éditions textuelles, Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule, l'ouvrage collectif Ford Blanquefort, même pas mort, édition Libertalia, paru en 2018. Merci Philippe Poutou et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Irait le soir des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Faudrait travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien. Y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi. D'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi. Y'a plus rien à faire. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore.